décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 24, salut Manu.
Salut Mag.
Salut Luc.
Donc revue de presse.
Alors revue de presse, 5 articles principaux.
On commence par numéro magazine, portrait de l'artiste en hacker qui détourne les nouvelles technologies par Ingrid Lukegad.
Semblerait qu'au centre Pompidou, ils sont en train de faire toute une expo où ils détournent et retournent des concepts partis du hacker notamment. Donc il y a des choses, il va peut-être falloir qu'on aille jeter un œil.
France Culture, que reste-t-il du logiciel libre par Hervé Gadette ?
Donc ça reprend toute une interview qu'il y a eu cette semaine avec Pig, le responsable de Framasoft.
Pierre-Yves Gosset.
Exactement, donc je ne l'ai pas encore écouté et il va falloir, parce que c'était plutôt intéressant il semblerait, d'après ce que j'ai entendu. Et c'est France Culture, donc un gros média quand même.
RFI, Software Heritage, la grande bibliothèque du logiciel par Dominique Dezonnet.
Un grand projet qu'on soutient et qu'on apprécie. Il y a des gens très motivés à l'INRIA qui ont décidé de stocker tous les logiciels et notamment les logiciels libres parce qu'on a légalement le droit de les stocker avec leur code source pour l'avenir.
Numérama, open source, qui sont les bons élèves et les cancres parmi les géants de la tech, par Victoria Castro.
Ça parle des géants de la tech, c'est-à-dire les GAFA. Là, ils en prennent 6 et ils essayent de lister et de faire un classement des plus sympathiques vis-à-vis du logiciel libre et des plus salauds.
T'as dit GAFA? Et
oui.
Puis tu dis 6, alors...
N'est-ce pas ? Alors, ils ont aussi mis Oracle, par exemple, dedans, et Microsoft, bien sûr. Donc, il faudrait voir comment l'acronyme se défend dans ces cas-là.
Les GAFAMO.
Un truc dans le genre, un truc un peu
Oracle
compliqué.
Oracle ne rentre pas dans la catégorie des GAFAM.
Traditionnellement, non. C'est... Donc là, ils parlent des géants, mais effectivement, Oracle est dans le classement tout en bas.
Ils vendent du service aux entreprises, des bases de données, etc. Les GAFAM sont plutôt orientés vers le grand public et prennent leurs données. Et Oracle, je pense, se contrefout des données des utilisateurs.
Mais c'est vrai qu'on a déjà entendu parler d'Oracle qui faisait soi-disant de l'open source et qui bloquait, qui fermait ses logiciels.
Il semblerait que ce soit considéré comme un trou noir de logiciels libres. Ils en utilisent plein en interne, ils en récupèrent plein, mais ils interdisent à leurs employés, semblerait-il, de contribuer au logiciel libre en tant qu'employés d'Oracle. S'ils veulent le faire, ils le font chez eux avec leurs adresses e-mail perso.
BFM TV, pourquoi les mèmes sur Internet sont en danger, par Elsa Trujillo.
Ça reparle de l'article 13 d'une directive européenne en cours d'écriture, donc un sujet assez important, et l'April et Vent Debout ainsi que d'autres associations, parce que c'est quelque chose qui pourrait vraiment être très embêtant pour tout Internet.
On en a parlé il y a quelques semaines, le sujet est vraiment très très important, et c'est là, d'ici la fin du mois de juin, dans les jours qui viennent, que ça va se voter. Donc il y a, dans cette campagne menée par tout un tas d'associations, dont l'April, des incitations à écrire aux députés, à leur téléphoner, à les harceler, leur en disant « faut arrêter les conneries ». On en a déjà parlé, mais on va en reparler cette semaine, parce que c'est très important, et c'est maintenant qu'il faut se bouger les fesses. Pour un petit résumé, ce projet de loi-là, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence ?
Alors la plus essentielle, c'est celle de mettre en place des filtres automatiques pour que chaque fois qu'on partage sur Internet des contenus, c'est pour ça que les mèmes sont mis en avant dans les articles et dans les médias.
Ouais, les mèmes, il faudra peut-être expliquer ce que c'est.
C'est des contenus, mais c'est des contenus très viraux qui vont être souvent diffusés entre chacun. C'est un peu du buzz, c'est tous les petits trucs un peu marrants, les petits chatons, les trucs rigolos.
On prend une image un peu connue, on met un commentaire dessus,
on la détourne.
On prend un petit gif animé, une petite séquence vidéo, on la détourne, etc. Ouais.
Et donc tous ces mèmes, qui sont super fun, qui sont super sympas, ils sont diffusés en grande quantité. Et bien là, si on met des filtres sur Internet, des filtres automatiques, alors, par exemple sur YouTube et d'autres, et bien les filtres, ils vont regarder à chaque fois qu'on partage un contenu, ils vont regarder si ça correspond à un contenu déjà existant et protégé par le droit d'auteur, et ils vont, en tout cas c'est la proposition, les bloquer.
Moi j'appelle ça de la censure quand même.
Mais c'est carrément de la censure, mais c'est de la censure qui s'appuie bien sur des règles, sur des lois et sur le droit d'auteur. Les ayants le droit ont l'air de pousser vraiment très fort pour que toutes les plateformes de partage de contenu mettent en place automatiquement ces filtres.
Mais techniquement c'est impossible.
Alors, même si c'est impossible, ça n'empêche pas qu'ils essayent de le faire.
Alors, le problème qu'il y a derrière, c'est que c'est un traitement automatique, donc c'est un filtre. Traditionnellement, on a, dans notre système juridique, des institutions qui sont censées juger si c'est oui ou si c'est non, avec des humains qui sont censés faire preuve d'intelligence.
Je sens que tu vas parler de faux positifs.
Alors, je vais parler d'abord de cette notion qu'on évoque très souvent, qui est « code is law », notion visionnaire qui avait été exprimée par Lawrence Lessig, donc un juriste, il y a de ça 20 ans, je pense, maintenant, à peu près,
oui.
Au moins.
Juriste américain.
Oui, 15-20 ans, et qui là prend toute son ampleur, c'est-à-dire que peut-être que le contenu en question ne méritait pas d'être filtré, mais comme c'est un robot qui l'a fait, de toute façon, c'est lui qui décide. Donc du coup, on est dans une situation où le filtrage est fait
par l'architecture. Voilà. En fait, la route est bloquée, il n'y a même pas moyen d'essayer. De toute façon, l'architecture bloquerait, en tout cas c'est le but du truc, bloquerait toutes les choses qui contreviennent. Voilà. Théoriquement.
Donc, Maga, tu avais raison, c'est bien les faux positifs. Donc ça, c'est un vrai, vrai souci. Et en plus, ça pose un autre problème. C'est que s'il fallait effectivement, à chaque fois qu'il y a un contenu supposé illégal qu'on aille devant le tribunal, ce serait matériellement pas faisable.
Ça encombrerait les cours de justice qui sont déjà bien encombrés. Et donc, c'est franchement totalement inutile.
Oui, en plus, il y en a des milliards. Ça coûte de l'argent quand même d'avoir un avocat. Donc
ça relancerait les avocats.
Ah oui, alors voilà.
Ils ont besoin d'être relancés.
Oui, ça les relancerait très très fort.
Non, mais du coup, ils se retrouveraient confrontés à des sujets auxquels ils sont pas habitués, comme les licences, comme le droit d'auteur. Peut-être que ça leur ferait pas de mal de poser les bonnes questions.
Alors, on sait qu'il y a des avocats qui sont un peu spécialisés là-dedans. On se rappelle quand on parlait des brevets notamment, il y avait des gars qui, à chaque fois, mettaient en avant leurs compétences sur le sujet. C'est hyper pointu et ils sont assez rares finalement.
Après, voilà, le problème, c'est que tu peux pas faire un procès pour à chaque fois quelqu'un envoie un mème ou
mais
une
si,
image
monsieur,
à la cour
si,
sur Internet.
C'est la loi, monsieur. Oui, c'est pour défendre les revenus de tous ces ayants droit, ces pauvres ayants droit.
Quand tu as trop d'infractions, tu prends par exemple l'infraction de la route, il y a un système avec la police, etc. Mais il y a quand même des systèmes de contestation. Quand on prend un PV, on peut écrire un recommandé en disant « Ah non, vous êtes trompé ».
Mais là, tu n'es pas en train d'envisager un système complet. Oui. On peut imaginer que ces filtres automatiques, ils aient un petit système pour dire « Oui, mais non, vous m'avez bloqué à tort
oui. »
et qu'on puisse essayer de demander à quand même faire passer les contenus qu'on veut
diffuser. Ça me rappelle une photo qui avait été mise sur un site de réseau social qui avait été censurée parce que, je rappelle, la photo, c'était une petite fille qui levait sa jupe ou sa robe et on voyait un téton. La personne qui l'avait posté ne comprend pas pourquoi on lui a enlevé son contenu, le reposte et se fait bannir.
On lui dégage toutes ses photos, tout son compte.
Et bah oui, effectivement, si le filtre il est un peu vache et que tu te plains, il pourrait te bannir. Après
et
tout,
après,
c'est des entreprises
dans tous les gens qui sont fait dégager sur YouTube ou ce genre de choses, quand ils ont dit mais pourquoi il n'y a personne en face, pas nécessairement. Actuellement, juste maintenant, au moment où on enregistre, il y a une histoire super marrante avec la Fondation Blender.
La Fondation Blender.
Alors, on rappelle, Blender, c'est un logiciel libre de 3D, logiciel fabuleux. Exemple, il faudrait qu'on fasse une émission un jour là-dessus.
Fabuleux mais compliqué.
Compliqué mais voilà, avec vraiment exemplaire dans son
ils
développement.
Ils font de très belles choses. Hein,
ils font Bunny, des films super
bons.
Voilà, et ils ont d'autres films et leurs films sont sous licence libre également. Donc c'est vraiment le truc qui est fait pour être partagé, absolument.
Ce sont des exemples.
Pas sur YouTube.
En fait, ils ont leur chaîne YouTube.
si, ils acceptent. Hein.
Et il s'avère qu'aujourd'hui, il y a eu des trucs qui ont été sur Twitter là-dessus par le type qui est à la tête de ce projet. Et quand on se connecte sur la chaîne YouTube de la Fondation Blender, ils ont peut-être réparé à l'heure à laquelle on enregistre, ça dit « Ah, vous n'avez pas le droit de voir ce contenu dans votre pays. » Alors que c'est du contenu sous licence libre et que c'est l'archétype même du truc qui devrait être diffusé partout et jamais bloqué.
Mais c'est un DRM, ça. C'est un DRM qui dit « Vous n'avez pas le droit de voir ce contenu dans ce pays-là. »
Et donc là, on a la parfaite illustration que, de toute façon,
c'est un faux positif.
C'est un faux positif de bonne taille en plus.
Mais là, c'est extraordinaire ce que nous a fait YouTube. Interdire une licence libre, interdire quelque chose qui est fait pour être partagé, il faut être très fort.
Mais en fait, on ne peut pas garantir comme cela de base que des contenus originaux ne vont pas être bloqués par exemple aussi. Au nom d'un produit dérivé, tu pourrais imaginer qu'il y a des gars qui dérivent quelque chose, qui sont très connus et qui vont te faire des blocages parce que toi, t'es l'original, mais personne ne sait.
Oui, on ne peut pas espérer en fait, qu'un système automatique soit subtil. C'est juste pas possible. Il y a un autre truc qui est également le fait de... sur les liens qu'on peut mettre vers Internet. Quand on veut mettre un lien, par exemple,
Il va falloir demander, en tout cas c'est ce qu'il propose, l'autorisation de pointer, de mettre ce pointeur, parce que effectivement, mettre un pointeur, ça peut en soi avoir une valeur pour les ayants droit, et ils espèrent, c'est l'idée, en extraire des revenus.
En gros, et donc, si tu veux faire un lien sur mon site, tu me payes.
Exactement, et ça, c'est un peu la taxe typiquement Google, parce qu'ils veulent que Google paye pour référencer tout leur site et faire pointer tous les résultats de recherche vers leur site.
C'est d'autant plus stupide que si Google doit payer ce genre de choses-là, ils vont tout simplement arrêter de mettre des liens et plus personne n'ira sur leur site.
C'est une possibilité, mais si c'est au niveau européen, est-ce que Google peut se retirer de tout le marché européen et ne pas payer cette taxe?
Le truc, c'est que ça peut toucher n'importe qui. Moi, j'ai une page quelque part sur Internet où je mets tous les articles de presse qui m'intéressent. C'est une page qui est publique.
Eh bien, les gens de la presse qui ont ces articles, et c'est l'idée, peuvent te demander de payer parce que tu as mis des liens qui pointent vers eux.
Voilà. Tout ce truc-là, moi, me fait penser à une conférence de Nina Paillet. Et là, on sort du domaine de l'informatique pour aller dans le domaine de l'art, qui est une conférence qu'on retrouve notamment sur le Framablog. Donc, le titre est en anglais, mais la vidéo est sous-titrée, qui est Make Art Not Law, donc faites de l'art, pas la loi. Et c'est assez brillant. Alors, elle est radicale hein, dans sa position, mais elle a tout un développement où elle dit qu'on est des
machines d'information, on récupère de l'information et on transmet de l'information.
Je ne suis pas sûr qu'elle dise machine, mais en gros qu'on processe de l'information, qu'à chaque fois qu'elle passe au travers de nous, on la modifie un petit peu, et que c'est ça la culture. Et qu'à partir du moment où on a du copyright et des systèmes qui nous interdisent d'eux, eh bien dans ce cas-là, ça bloque ce processus naturel et tout se met à stagner, etc. Et donc du coup, on arrête de créer, on arrête d'innover, et qu'on soit dans la culture ou dans l'informatique, c'est cette même idée, et dans l'informatique libre, c'est qu'on partage le code, on partage la culture, chacun se l'approprie, se la réexprime, et c'est parfaitement naturel. Et aujourd'hui, dans un mouvement qui veut aller contre la nature des choses. Et du coup, c'est très violent.
Oui, parce qu'en plus, on parle plus de censure, là, on parle d'auto-censure. Les gens ont peur de faire des choses qui se les mettraient face à des ennuis, et elles traitent les ennuis de violence, d'amende, de prison, de punition. Elle va assez fort. Elle est contre les licences, elle est contre le copyright, elle n'est pas pour non plus les licences libres parce qu'elle les assimile à juste un combat parallèle au copyright. Elle voudrait juste qu'il n'y ait pas de licence. En gros, tout est ouvert, tout est open. Tu dois retourner ça, Manu.
Ah, mais moi, j'apprécie. Hein. Je pense que toutes ces règles qui sont des règles dites de propriété intellectuelle, donc le droit d'auteur, les brevets, le droit des marques, le droit des secrets, tous ces trucs-là sont des trucs absurdes qui ont été rajoutés souvent au 19e siècle, dont on paye les prix aujourd'hui. C'est un contrôle qui est vraiment horrible sur la culture complète.
On rappelle que les licences libres mises en œuvre par Stallman et les gens avec qui ils travaillaient au début des années 80 ont été rendues nécessaires par le fait que l'informatique propriétaire est arrivée, alors qu'avant c'était des trucs où ils partageaient entre universitaires et ils s'étaient pas posé vraiment de trop la question des licences. Ils partageaient le code et c'était naturel. Et donc, ils ont été obligés de prendre une sorte de contre-mouvement. Et le monde était merveilleux, effectivement, on n'aurait pas besoin de licence, on partagerait.
Sachant qu'il y a des petits gars aux États-Unis qui adorent le droit d'auteur, au point qu'en ce moment même, il y a des discussions pour l'étendre.
Je ne suis pas sûr qu'ils l'adorent. Je pense qu'ils sont bien payés pour.
Ouais.
N'est-ce pas ?
C'est un mouvement donc, de lobbyistes hein, qui disent « Actuellement, le droit d'auteur, c'est jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. Et en fait, ce serait pas mal de passer à 140 ans. »
Oui, vous comprenez, parce que l'auteur, il en a besoin.
Oui.
Pour produire des œuvres, c'est nécessaire d'imaginer que 140 ans après la mort de l'auteur, il puisse encore bien recevoir de l'argent.
Alors déjà, 70 ans, ça me perturbait, mais alors 140, là, on est carrément dans le vol public, quoi. On vole le domaine public des œuvres qui auraient dû y monter.
C'est Jean-Michel Jarre, hein, qui, à part faire de la mauvaise musique... Si.
Tu connais les goûts de Luc. Hein,
a été chef d'un machin qui est un gros, une sorte d'organisation un petit peu l'assassin mondial en quelque sorte, ou en tout cas une organisation qui les chapeaute, où ils discutent entre eux. Et il a dit, mais les droits d'auteur, le domaine public devrait cesser d'exister, on devrait être propriétaire jusqu'à la fin des temps de ces choses-là.
Ça me fait saigner les oreilles quand j'entends ça.
Et l'argument, il peut se tenir, il dit, c'est à moi.
C'est de la propriété, dans son esprit, c'est de la propriété.
Est-ce que quelqu'un vient de voler ta maison ou à tes descendants parce que tu l'as acheté ?
Ouais, mais on la démonte pas, ta maison, quand t'es mort. Quoi. On n'est pas en train de la enlever pierre par pierre pour la mettre dans ton cercueil, quoi. Faut pas déconner, elle a une vie, ta maison. Elle a le droit d'évoluer, de changer, de s'améliorer.
Oui, mais l'idée, c'est que t'as cette propriété. Et c'est l'idée qu'il y a derrière et qui est difficile à démonter, de dire, il l'a fait, il y a de la propriété, alors pourquoi on lui retirerait, etc.
Parce qu'une fois qu'elle est dans notre esprit, elle nous appartient aussi. Les idées et les œuvres sont partagées et elles apparaissent comme des copies dans l'esprit de chacun. Et dire que cette copie, elle appartient à quelqu'un d'autre, alors qu'elle est dans mon esprit, moi, je suis Nina Palais, je trouve que c'est perdre la souveraineté de mon esprit.
D'autant plus que tout ce contenu copyrighté, on a, pour une bonne part, pas choisi qui rentre dans notre esprit. Et ça, c'est quelque chose qu'elle fait remarquer également, qui est très juste.
Elle parle des chants de Noël dans son... Oui. Moi, j'ai une autre chanson, quoi. Je veux dire, Joyeux anniversaire, qu'on se chante tous à toutes les occasions, et qui est pas dans
droit
le
d'auteur,
domaine,
hein, droit d'auteur.
Qu'a cette licence-là, alors que c'est totalement rentré dans la tradition, quoi. Ça appartient au peuple.
Et puis, depuis tout petit, on mange ces trucs-là, on nous a pas demandé notre avis, et donc, quelque part, ça doit nous appartenir, et ça n'est que de l'information, on le rappelle. La maison, il n'y en a qu'une, elle est localisée, c'est de la matière. Les informations ne disparaissent pas quand on les partage, et on ne parle pas du même objet du tout. Et une culture, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui s'approprie, qui se redigère, et c'est comme ça qu'on fait une société dynamique.
Et là, le droit d'auteur, ça devient quelque chose qui bloque la culture, ça veut interdire la transmission au nom du droit de ces... Alors, c'est plus les auteurs, c'est les ayants droit, parce que les auteurs sont morts dans beaucoup de cas.
Oui, et en plus de ça, dans tous les systèmes, quand on est dans le domaine de l'art, on va pas s'étendre dessus parce qu'on n'est pas expert de toute façon, mais aujourd'hui, le système, il est très largement cassé. Enfin, les gens qui écrivent des bouquins, ils en vivent pas, à part une poignée de gens. Et pareil dans la musique, il y a une poignée d'élus qui ont gagné au loto,
les grandes stars mondiales.
Et les autres, ils donnent des cours de musique, quoi.
Madonna, elle utilise, j'imagine bien, le droit d'auteur, mais effectivement, les petits groupes, ils en recevront jamais rien.
Voilà. Donc c'est l'argument, c'est toujours la création, aujourd'hui, les artistes, ils tirent la langue très très fort.
Ce que je comprends pas, c'est pourquoi les ayants droit, ils réclament autant d'argent et de droits à l'encontre du reste de la population.
Parce qu'ils ont l'impression de ne voler personne. Quand on vole le public, c'est personne. Il n'y a personne qui défend le public, il semblerait.
Pour moi, c'est une capitalisation. On est dans l'ordre du capital. C'est que c'est un nouveau terrain où on peut s'approprier les choses. Il y a le bouquin de Piketty, Capital au XXIe siècle, qui a fait un certain tabac qui a été assez connu et où il dit que le capital a repris beaucoup d'ampleur et qu'on est revenu au niveau qu'on avait au début du XXe siècle. Et pour moi, c'est cette appropriation de la culture qui fait petit ce truc-là. Et quand on dit culture, en plus de ça, on n'est pas uniquement dans le domaine artistique. Hein. Je veux dire, le code, c'est de la culture. Enfin, c'est de la technique, ce genre de choses. On n'a pas de valeur à faire. Chacun a ses préférences. Mais l'idée, c'est qu'on, collectivement, on s'appauvrit et on devient plus faible quand la culture n'est pas diffusée, partagée. Et
donc, au nom du partage, eh bien, il va falloir se battre contre cette directive 13 qui est en train d'être écrite et d'être proposée au niveau de l'Union européenne. Je crois qu'il suffit de la repousser de quelques semaines parce que la présidence tournante va changer et que c'est la présidence actuelle de l'Europe qui est en train de pousser pour ce genre de directive. Donc juste quelques semaines, ça va peut-être suffire à faire que ça tombe à l'as. On peut espérer.
Voilà. En tout cas, on croise les doigts.
Donc allez sur le site de l'April, c'est en bannière, en plein écran, april.org et prenez quelques minutes de votre temps. Au moins pour signer la pétition, éventuellement envoyer un petit mail
amical.
Amical, il y a des propositions et des paragraphes proposés. Et si vous avez du bagou, vous n'avez pas peur du téléphone, appelez votre député.
À la semaine prochaine.
Salut.